Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 de toutes les émotions. Joie de vivre, bonne humeur, certes, mais aussi et surtout ce sentiment d'être chaque matin parfaitement informé et plus que ça, de bénéficier d'éclairages exclusifs sur l'actu grâce aux analyses toujours pertinentes de Céline Dacosta. C'est toujours les mêmes gestes, d'abord le neurone gauche, puis le droit, toujours.
On a toute la confiance avec Monsieur Gaïd Salah. Chapeau, chapeau et chapeau.
Mais Chapi, il a oublié Chapi.
Amy Eva, vous étiez en vacances, mais Céline était en forme. Heureusement, debout les copains, c'est aussi le regard de Fabrice d'Almeida, le monsieur histoire d'Europe 1 qui, au lendemain de l'incendie dévastateur qui a mis en cendres la charpente de Notre-Dame de Paris, revient sur l'histoire de ce joyau de l'architecture médiévale.
Merci d'écouter Europe 1 ce mardi 16 avril. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce 16 avril 2019. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
La désolation après l'incendie qui a en partie ravagé Notre-Dame. Ce matin, le feu est maîtrisé, partiellement éteint. Les premières images de l'intérieur de l'édifice montrent un trou béant là où la flèche s'est effondrée. Mais la structure de Notre-Dame a été sauvée et préservée dans sa globalité. Nous rebâtirons Notre-Dame, a promis Emmanuel Macron qui annonce une souscription nationale. Dans la nuit, la famille Pinault a d'ores et déjà annoncé le déblocage de 100 millions d'euros. Matinale spéciale dès 7h avec Nikos Aliagas qui sera en direct du quartier de Notre-Dame.
Europe 1.
Une flèche transformée en torche dans le ciel de Paris, une flèche qui s'est effondrée, transperçant le cœur de millions de personnes. Image terrible à laquelle nous avons pu assister hier soir, impuissant. Ce matin, l'incendie est maîtrisé après des heures de lutte. Le feu est partiellement éteint. Il reste quand même des foyers résiduels, selon les mots des pompiers de Paris, 400 hommes mobilisés. Et les premières images de l'intérieur de l'édifice sont sidérantes. Un trou béant permet de voir le ciel. Théo Manval, certes, les dégâts sont considérables. Il va falloir des années de travaux pour tout réparer, mais la structure de l'édifice est sauvée.
Oui, les pompiers ont craint jusque tard dans la soirée que l'incendie n'ait fragilisé les tours au point que l'un des beffrois de Notre-Dame ne s'effondre. Mais finalement, cette nuit, ils ont confirmé que la structure était désormais sauvée, préservée dans sa globalité. Plusieurs centaines de pompiers sont restés à l'œuvre toute la nuit pour maîtriser un feu qui a baissé en intensité, mais qui aura eu le temps de ravager en quelques heures à peine toute la toiture, la charpente du XIIe siècle qui a fini par s'effondrer, tout comme la célèbre flèche de l'architecte Viollet-le-Duc tombée dans le brasier rouge vif sous l'œil effaré des habitants du quartier.
J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu les flammes. L'incendie continue quoi. Et l'incapacité à calmer les flammes.
Toute la charpente là, on l'a vu se consumer et j'ai vu la flèche carrément basculer vers les tours, comme ça. POUM ! Je l'ai vu tomber. C'est l'horreur.
Ouais, c'est
10 siècles qui disparaissent au milieu de flammes.
Plus de flèches, plus de charpentes donc, mais les reliques qu'abrite Notre-Dame ont pu être sauvées, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Le parquet de Paris a ouvert, lui, une enquête pour destruction involontaire par incendie.
Théo Manval pour Europe 1. Emmanuel Macron s'est rendu hier soir deux fois sur place. Il a salué le travail considérable des pompiers. Il a fait une déclaration la deuxième fois, peu après 23h30. Le pire a été évité. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Le chef de l'État a adressé une pensée à l'ensemble des Français parce que, a-t-il dit, Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments.
Et spontanément, Céline, par centaines, des croyants catholiques se sont rassemblés aux abords de Notre-Dame hier soir.
Oui, ils ont entonné des cantiques, les yeux rivés sur l'incendie qui était encore en cours. Parmi eux, Axel, jeune étudiant parisien, quasiment incapable de trouver les mots, totalement bouleversé.
Nous te saluons, ô toi,
moi, je suis un passant dans la rue, je suis catholique, parisien. Je suis profondément triste pour ces deux raisons. En venant ici, un ami m'a dit qu'il était là. J'ai vu l'immense fumée, je ne savais même pas ce qui se passait. Et en venant ici, on s'est réunis pour chanter, pour demander l'aide divine ou quoi que ce soit. C'est tout. Et c'est d'une tristesse absolue. Je pense que tous les Français et les catholiques sont tristes. C'est terrible. Désolé.
Elle s'est rendue sur place, évidemment, la maire de Paris également, Anne Hidalgo, qui a fait part de son émotion.
Une tristesse immense, c'est une épreuve terrible. Bien sûr que Notre-Dame est d'abord un lieu de foi pour les chrétiens, les catholiques, ici à Paris, en France et dans le monde entier. Mais c'est aussi un lieu qui symbolise Paris. Il y a une chaîne humaine qui s'est tout de suite mise en place. D'abord les pompiers, qui font un travail incroyable. Et puis une chaîne aussi de solidarité, notamment pour la préservation des œuvres. Avec le ministère de la Culture, la ville de Paris, nous avons mis en place les moyens pour pouvoir récupérer les œuvres qui ont pu être sauvées pour les mettre à l'abri. Et puis, nous avons des appels du monde entier, parce que c'est un drame pour le monde entier, je le redis, mais bien sûr que Notre-Dame, c'est toute l'histoire de Paris. Nous allons nous relever aussi de cette épreuve.
Anne Hidalgo, hier soir devant Notre-Dame de Paris, qui peu de temps après a pu entrer dans la cathédrale, c'est moins terrible que ce que je craignais, a-t-elle déclaré. La classe politique dans son ensemble a fait part de son immense tristesse. Les réactions ont afflué du monde entier. Notre-Dame est un symbole de la France, de notre culture européenne, a tweeté le porte-parole d'Angela Merkel. Michelle Obama, qui est à Paris en ce moment pour présenter son autobiographie, a tweeté elle aussi « Mon cœur souffre avec le peuple de France, mais je sais que Notre-Dame nous émerveillera de nouveau. »
Réaction également du Vatican hier soir, Céline.
Le Saint-Siège a appris avec incrédulité et tristesse la nouvelle du terrible incendie, exprimant sa proximité avec les catholiques français et les parisiens. Et puis l'UNESCO a annoncé soutenir aux côtés de la France pour se tenir aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. Et justement, les dons commencent à affluer. La famille Pinault va débloquer 100 millions d'euros. Emmanuel Macron a annoncé une souscription nationale, lancée donc pour rebâtir la cathédrale. Fondation-patrimoine.org.
Il va falloir des années et des années de travaux pour remettre en état le toit désormais éventré de la cathédrale.
Une enquête a bien sûr été ouverte. Des ouvriers étaient entendus dès hier soir, car vous le savez, des travaux étaient en cours pour justement restaurer la flèche qui s'est effondrée. Un chantier qui devait durer plus de 10 ans. Les détails avec Rémi Bossaron.
C'est un chantier de plus de 10 ans qui venait de s'ouvrir à Notre-Dame. Plus de 10 ans et un budget de quelque 60 millions d'euros pour rénover non pas la façade ni les deux tours gothiques, mais le chevet, le chemin de ronde, la sacristie et surtout, pour commencer, cette flèche qui s'est effondrée hier. Une flèche dont il fallait réparer la couverture en plomb fissurée, voire cassée par endroits. Il fallait assurer son étanchéité pour protéger la charpente. Et c'est pour cela qu'un gigantesque échafaudage avait été mis en place ces derniers mois. 500 000 tubes, 500 tonnes d'acier qui s'élevaient jusqu'à plus de 100 mètres au-dessus de la plus haute croix de la cathédrale. La semaine dernière, pour la première fois depuis leur installation il y a plus de 160 ans, les statues en cuivre de la flèche avaient été retirées par une immense grue afin d'être restaurées. Les 12 apôtres et les 4 évangélistes devaient faire leur retour l'an prochain. Ils font aujourd'hui figure de miraculés.
Rémi Bossaron, et je vous rappelle donc que la structure de Notre-Dame a été sauvée, préservée dans sa globalité. Le feu a été maîtrisé peu après 3 heures du matin, partiellement éteint. 400 pompiers étaient mobilisés. Matinale spéciale, évidemment, sur Europe 1. Et dès 7 heures, nous serons en direct sur place avec Nikos Aliagas et le reporter de la rédaction.
Merci beaucoup. C'était le journal de Céline Kalman.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, 200 ans pour la construire, 5 heures pour qu'elle parte partiellement en fumée. Fabrice Delmeda revient évidemment sur l'histoire de la plus célèbre cathédrale de France et peut-être même du monde, largement dévastée par les flammes hier soir. On en parlait, Notre-Dame de Paris.
Bon réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
Et Céline, c'est l'heure de faire un point sur la météo du jour. Tout le monde aura de la pluie aujourd'hui.
Oui,
vous en êtes
vrai.
Persuadée.
Oui, elle sera présente sur la moitié ouest ce matin. Elle a déjà arrosé les côtes atlantiques, est en train d'avancer doucement. Et elle va gagner toute la partie est cet après-midi. Elle sera accompagnée de vent. Quelques coups de tonnerre possibles dans le sud-ouest, un petit peu comme hier, mais en moins fort. Les éclaircies reviendront dès ce matin de la Bretagne aux côtes basques et de la Normandie à la région Midi-Pyrénées pour cet après-midi. Rassurez-vous, le soleil sera de retour demain et jusqu'à la fin de la semaine. D'ailleurs, on se dirige vers un très joli week-end de Pâques, surtout sur la moitié nord où le soleil sera bien présent. Les températures sont moins froides ce matin. On a quand même 3 degrés à Mulhouse, 6 à Besançon, 9 à Rennes, il en fait 11 à Paris. Et puis cet après-midi, la moyenne ira de 12 à 20 degrés du nord au sud. Je vous ai dit qu'il fera beau et il fera chaud aussi puisque les températures...
Contre Patrie belge.
Mais c'est pas faux. Et les températures vont bien augmenter aussi dans les jours à venir et on parle d'une moyenne de 21 à 25 degrés pour le week-end de Pâques.
Voilà qui est agréable. Eva Rock.
Depuis ce matin, 5h, on vous demande ce que vous avez ressenti en découvrant ces images de désolation face à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous aviez déjà visité ce lieu et ce qu'il représente pour vous? Eh bien, vous êtes très nombreux à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, comme Thierry qui nous dit « À chaque voyage pour Paris, je viens saluer Notre-Dame. Elle est l'histoire de notre pays, le point zéro du départ de toutes les routes de France. Elle ne peut que renaître de ses cendres, tel un phénix immortel et intemporel. » Vincent, lui, nous dit « Je courais souvent devant et j'étais toujours impressionné par sa grandeur et sa majesté, impressionnante et accueillante à la fois. » Jérémy nous dit « Eh bien moi, je ne suis pas très fortuné, mais je vais tenter de financer la rénovation de la cathédrale de Notre-Dame. » Et puis Belle une fois nous dit « De la sidération au départ, c'est ce que j'ai ressenti, puis ensuite de la tristesse. C'est une part de l'histoire de France qui vient de partir en fumée. » Enfin, Gecko, il nous raconte une petite histoire. Une des premières fois où il a pu se rendre à Paris tout seul, c'était à l'époque où on avait nos premiers Walkman, vous savez. Il a grimpé tout en haut des tours et c'était beaucoup plus libre à l'époque, nous raconte-t-il. Et de là-haut, je m'étais enivré d'altitude et d'espace en écoutant Carmina Burana. Ah oui. Il en garde un souvenir mémorable, voilà. Et Suzy nous cite aussi du Baudelaire ou Barbara qui nous dit « Notre-Dame est blessée, le Paris est blessé, la France est blessée. » Merci pour toutes vos réactions sur Twitter.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est, vous le savez, la journée mondiale de la voix. En la matière, il est pour tous les gens de radio un exemple, une icône. Larynx d'argent 2017, Globe d'or 2018. Voici l'homme qui, par sa voix, fait entrer le journal des sports dans une autre dimension.
Samuel Umtiti.
Jérôme Lacroix, nous sommes tout ouïes pour le journal des sports. À la une, le monde du sport pleure, lui aussi, Notre-Dame.
Très
ce matin.
Nombreuses réactions des acteurs du monde du sport à la hauteur du sinistre qui a touché la cathédrale parisienne. Réaction sur Twitter de plusieurs clubs de Ligue 1. Le compte du PSG parle d'images terribles et souhaite courage aux pompiers encore à l'œuvre. Comme l'AS Monaco, le Stade Rennais se souvient de l'incendie du palais du Parlement de Bretagne en 1994 et pense à Notre-Dame, je cite, « symbole de notre merveilleux patrimoine ». Soutient aussi de nombreuses personnalités. Pas de mots pour Kylian Mbappé, seulement une photo du sinistre, alors en cours, avec un petit emoji pleurant à chaudes larmes. « C'est notre histoire qui brûle », déplore la championne de boxe Sarah Ouramoun. « Très triste », écrit Tony Estanguet. « Sauvez notre trésor », implore le pilote français de Formule 1 Pierre Gasly. « Cœur brisé » pour Roxana Maracineanu, avec ce seul mot « tristesse », tout en souhaitant courage aux pompiers de Paris.
La ministre des Sports, justement, qui était l'invitée hier soir d'Europe 1, elle a souhaité l'engagement des acteurs du foot contre le racisme et l'homophobie.
Alors qu'on apprend ce matin l'ouverture d'une enquête après des injures homophobes proférées par des supporters lors du match Lens-Valenciennes vendredi dernier en Ligue 2. Il existe des images vidéo. Il y a peu, la présidente de la Ligue, Nathalie Bois-de-la-Tour, avait suscité l'indignation en déclarant que ce type de chant, tout en les condamnant, faisait, je cite, « partie du folklore du foot ». Roxana Maracineanu entend que la Ligue de foot comme la Fédération agissent. La ministre était hier l'invitée de Mathieu Béliard dans le Grand Journal du Soir sur Europe 1.
Aujourd'hui, ils reviennent sur les propos qu'ils ont prononcés, que ce soit Nathalie Bois-de-la-Tour et Noël Le Graët. Je vais le recevoir mercredi, là, dans deux jours au ministère, pour qu'on étudie ensemble, qu'on fasse un état des lieux de leurs actions en la matière, discrimination et homophobie. Et puis derrière, qu'on enclenche avec l'instance nationale du supporterisme un vrai plan d'action là-dessus pour que
ça
le sport n'échappe pas à la société, à la loi de la société.
Ligue des champions ce soir et la tête au dernier carré pour Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin. Un quart de finale retour en Italie face au tant jeune que talentueux néerlandais de l'Ajax Amsterdam. Un partout à l'aller, coup d'envoi 21h, tout comme Barcelone-Manchester United, victoire catalane 1-0 à l'aller.
Et puis Jérôme, des nouvelles de Pelé.
Oui, le Brésilien, icône mondiale du foot, est sorti de l'hôpital de Sao Paulo après une opération d'un calcul rénal à 78 ans. Le triple champion du monde clôt ainsi une séquence de 13 jours d'hospitalisation entre Paris et Sao Paulo.
On termine avec l'histoire du jour.
Le golfeur Tiger Woods, bientôt honoré de la plus haute distinction civile des États-Unis, la Presidential Medal of Freedom, la médaille présidentielle de la liberté. Donald Trump l'annonce. Récompense à la victoire de Woods lors du Masters d'Augusta dimanche, succès qui correspond à un superbe retour au premier plan après 11 ans sans titre majeur.
Merci beaucoup.
5h, 7h. Mathieu Noël.
C'était donc le journal des sports de Jérôme Lacroix. Debout les copains continue. 2 heures d'actu et d'invités qui la décryptent à 6h20. Notre invité, tout trouvé, c'est évidemment ce matin Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1. Bonjour Fabrice.
Bonjour à tous.
Fabrice qui nous rejoint pour évoquer bien sûr le drame qui a frappé hier soir Notre-Dame de Paris. Du haut de sa flèche, près de 1000 ans d'histoire nous contemplait. Elle s'est effondrée un peu avant 20h. Il faudra des décennies pour la reconstruire. Retour sur l'histoire de celle qui est probablement la plus célèbre église du monde.
Bon réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h15. Il est 6h17 et l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
L'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris est maîtrisé. Feu partiellement éteint, annonce peu avant 4h ce matin des pompiers de Paris mobilisés. La toiture de la cathédrale a été détruite aux deux tiers. La flèche s'est effondrée. On sait déjà bien sûr que les travaux de reconstruction sont très longs, très coûteux. Cette cathédrale, nous la rebâtirons, a lancé Emmanuel Macron, qui annonce une souscription nationale. Enfin, le parquet de Paris a ouvert une enquête. À ce stade, c'est la piste accidentelle qui est privilégiée. Le feu est peut-être lié au chantier qui était en cours sur le toit. Des enquêteurs ont commencé cette nuit à interroger les ouvriers. Matinale spéciale sur Europe 1 dès 7h avec Nico Saliagas et tous les reporters de la rédaction qui seront en direct aux abords immédiats de la cathédrale.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
La flèche de Notre-Dame qui s'effondre en flammes. Cette photo fait la une de la quasi-totalité de vos quotidiens. Ce matin, la charpente de la cathédrale était un joyau de l'architecture médiévale. Les poutres les plus anciennes étaient vieilles de 8 siècles. Bonjour Fabrice Almeida.
Bonjour à tous.
Vous êtes évidemment le monsieur histoire d'Europe 1. On vous retrouve d'habitude tous les matins pour la chronique C'est historique un peu avant 6h15. Ce matin, vous êtes notre invité de 6h20. Comment l'historien que vous êtes réagit ce matin quelques heures après Notre-Dame? Vous devez être un peu ébranlé.
Mais ce qu'il y a de frappant, c'est de se... Vous savez, c'est un peu comme à la fin d'une histoire, mais c'est pas la fin d'une histoire, faut s'en souvenir, on se repasse le film, c'est-à-dire qu'on revoit tous les grands moments, on repense à tout ce qu'a traversé ce bâtiment qui est exceptionnel, qui a été lancé en 163, il a fallu presque deux siècles pour le parachever.
Pourquoi il a fallu deux siècles pour le parachever? Parce qu'à l'époque, c'était des techniques de construction, c'était tellement compliqué de bâtir ce bâtiment.
C'est compliqué, et puis c'était presque des innovations technologiques pour l'époque. Vous savez, on a commencé à avoir ce qu'on appelait le style roman, c'était les premières églises vers le 9e siècle, 10e siècle. Et puis, il y a des gens en Bourgogne, ils ont dit, on va essayer un nouveau style en essayant d'élever encore plus les voûtes. Et donc là, ça a demandé des nouvelles techniques. C'était le roman bourguignon. Et on a commencé, tout d'un coup, on a eu une idée, on va faire des voûtes brisées. Et c'est ça qui a permis l'émergence du gothique et qui a permis ces cathédrales, comme celle de Notre-Dame de Paris, qui s'élèvent encore plus haut que les autres. Et c'est pour ça que c'était des monuments qui, à l'époque, étaient gigantesques, qui demandaient une technique, des calculs, une ingénierie énorme.
Eva Rock.
Je lisais ce matin, notamment dans le Parisien, on ne connaît pas l'architecte en fait qui est à l'origine de ce bâtiment.
Oui, par contre, on connaît le commanditaire.
Oui.
Hein, c'était l'archevêque de Paris, Sully, et qui a été le fondateur. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer même qu'il y en a plusieurs qui se sont succédés, qui avaient des techniciens spécialisés différents, les uns préparant la charpente, les autres préparant les objets d'art, d'autres préparant la façade, parce que la façade par moment a été peinte. Donc il y avait vraiment, j'allais dire, des dizaines et des dizaines de métiers qui étaient engagés dans la construction de ce bâtiment. Et donc, on a pris du temps parce qu'ensuite, on s'est rendu compte que peut-être le jeu des calculs qui avait été fait avec les arcs n'était pas suffisant. Et donc, il a fallu rajouter les arcs boutants. Donc, vous voyez que cette technique, cette construction, ça a pris beaucoup de temps.
Ça a été un work in progress, comme on dit en fait. Il y a eu différentes étapes avec des techniques différentes.
Exactement. Et comme en même temps, le bâtiment a bougé, parce que suivant les régimes politiques, ils s'en sont plus ou moins occupés. Alors, bien sûr, les rois s'en occupaient. Quand il y avait un décès royal, en général, ils transitaient par Notre-Dame de Paris, quand il y avait ce qu'on appelait une entrée solennelle du roi. Vous savez, parfois, le roi revenait de longs voyages, il faisait une entrée solennelle dans Paris, donc il partait généralement de la Porte Saint-Denis et il allait jusqu'à à Notre-Dame de Paris. Donc ça, c'était le... Mais à la fin, Louis XIV... Il préfère Versailles, il préfère les Invalides, donc il ne va pas beaucoup investir. Louis XV, il construit Sainte-Geneviève dans Paris. Vous savez, c'est aujourd'hui, c'est le Panthéon Sainte-Geneviève. Donc il va investir plus là-dedans. Donc ils vont un peu délaisser Notre-Dame. Et c'est pour ça qu'au début du 19e siècle, on se dit, mais cette église n'est pas dans un bel état. Victor Hugo, quand il en parle, la visite dans les années 1820, il dit, mais c'est pas possible, ce bâtiment, on le délaisse. Il faut faire quelque chose. C'est ce qu'il écrit dans le début de Notre-Dame de Paris. Vous vous souvenez du mot qui fonde son idée, il voit une inscription en grec sur un des murs de la cathédrale, il y a écrit « Fatalité ».
Toi, je l'avais oublié, je vous avoue que je l'avais oublié ça Fabrice, heureusement vous êtes là pour nous le rappeler. Bonne nouvelle, ce matin, il y en a une quand même, les œuvres d'art, la couronne d'épines et le trésor de la cathédrale ont pu être apparemment sauvés des flammes. Quelle est la valeur de ce patrimoine-là?
Écoutez, pour la couronne d'épines, on le sait puisqu'on l'a acheté.
Ah,
c'est le roi Saint-Louis, rappelez-vous, qui avait fait des croisades. Et donc, il est allé vers la Terre Sainte en espérant trouver des objets ayant appartenu au Christ. Et on lui a vendu la couronne d'épines qu'il a payé 145 000 livres tournois. J'ai pas eu le temps de faire la conversion en euros.
Mais ça fait certainement beaucoup.
Mais ça faisait très beaucoup, comme dirait l'autre.
Très beaucoup. Alors, on craint pour la structure de la cathédrale, Fabrice, parce que donc on a parlé de la charpente qui a brûlé en grande partie. C'était tout en bois. Alors, ça explique que ça ait brûlé si facilement.
On l'appelait la forêt. Hein,
on l'appelait la forêt. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu
1300 chênes.
Oui, effectivement.
Vous imaginez pour construire cette charpente, pour mettre en place tous ces bois. Elle avait eu déjà au Moyen Âge. Il y a eu un moment où elle a en partie brûlé. Donc, on l'a reconstruite en 1220. Et puis, il y a eu d'autres moments où il a fallu la renforcer. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la flèche faite par Viollet-le-Duc en 1862.
L'occasion de dire aux gens qui seraient à 6h22 aussi, qui ont pu voir hier le message de Donald Trump qui disait pourquoi on ne balance pas de l'eau par la voie aérienne. En fait, il y a une explication à ça, évidemment. Ben, c'était qu'on ne peut pas, la structure est trop fragile pour
exactement.
Ça. Ça aurait tout détruit. En
exactement
fait.
Ce qu'on décrivait, le jeu de rapport de force entre l'arc brisé, les colonnes, les murs et puis les arcs boutants, c'est très fragile et la pierre est fragile.
Est-ce que, donc, si on arrive à préserver la structure, les vitraux, est-ce qu'on va pouvoir sauver les vitraux ou est-ce
Alors,
que les vitraux.
Apparemment, la grande rosace serait préservée. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que.
Oui, parce que vu les images d'hier, on
a. Bah oui,
on
et puis qu'on sait tous que très souvent, les vitraux sont joints par du plomb. C'était la vieille technique qu'on avait. C'était un métal qui chauffe, qui fondait à une température assez basse, le plomb. Donc en voyant les images hier, on se disait, c'est pas possible, ça va s'effondrer. Mais apparemment, ça aurait été préservé. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais peut-être. Vraisemblablement, la grande rosace serait sauvée.
On a dit l'importance historique, évidemment, de Notre-Dame pour les rois de France, mais dans l'histoire contemporaine, nos dirigeants ont continué à aller à Notre-Dame,
mais
à
oui,
se rendre, il s'est passé
oui,
des choses.
Mais oui, Notre-Dame est devenue, il faut le dire, c'est une église de la nation. Déjà, statutairement, avec la séparation de l'église et de l'État en 1905, les églises sont la propriété de l'État. Ensuite, elles sont confiées à l'église de France qui s'en occupe au jour le jour, mais ce sont des bâtiments nationaux. Et puis, dès 1894, la veuve de Sadi Carnot, qui venait d'être assassinée, demande à ce qu'il y ait une cérémonie en l'honneur de son mari à Notre-Dame. Et cette république laïque, anticléricale, on dira ce qu'on veut, elle accepte qu'il y ait cette cérémonie. Et ça va s'enchaîner, ça va être la même chose pour Paul Doumer, ça va être la même chose pour le commandant Charcot, on a oublié le grand explorateur des pôles, il aura des obsèques, des funérailles nationales qui passent par Notre-Dame de Paris. Et puis plus récemment, il faut se souvenir de De Gaulle en 1970 qui meurt, cette cérémonie qui a lieu alors qu'il a déjà été enterré à Colombelles-les-Deux-Églises. Le monde entier était là, Haïlé Sélassié, Richard Nixon, Madame Kennedy était là. Et puis un peu plus tard, 4 ans plus tard, c'est Georges Pompidou qui meurt, à nouveau funérailles nationales. Et puis, pour dire, on a parlé de la droite, parlons maintenant de la gauche.
François Mitterrand,
exactement. En 1996, il fait l'objet d'une messe solennelle à Notre-Dame. Et on a ce peuple socialiste qui se retrouve devant cette église et qui, pour le coup, ne critique pas. Et puis, on aura les petits couacs. Jacques Chirac qui décide de communier à Notre-Dame, qui est filmé. Alors, tout de suite, la polémique. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est pas normal ? Et puis, il y a aussi, il faut le dire, les grands moments de la nation. Quand il y a, vous savez, l'avion d'Air France de Rio. Voilà, en 2009, on a eu ce moment solennel où on s'est tous retrouvés, cette messe solennelle qui a valu aussi une minute de silence.
Emmanuel Macron a souhaité qu'on fasse appel au plus grand talent pour la reconstruction de l'Église. De quel talent s'agit-il ? Et surtout, est-ce qu'on a ces talents aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des ferronniers spécialisés ? Enfin, est-ce que ça existe ? On peut les retrouver, ces talents,
pour
reconstruire ?
Oui, on a cette chance en France d'avoir des techniciens et des vrais professionnels de la restauration du patrimoine, tous ces métiers d'art qui ont des écoles spécialisées. Alors, on connaît certaines, par exemple, pour le bois dont on parlait, il y a l'école Boulle, qui est un des principaux lieux de formation. Mais
tous
ensuite,
les compagnons
il y a,
de France
voilà,
aussi.
Voilà, exactement. Hein. Il y a aussi tout l'apprentissage, il faut le dire, parce que je pense que ça va être un lieu d'implication pour énormément de gens et je pense de jeunes
gens. Et ça va donner du travail à des jeunes gens aussi.
Exactement, et ça va être un moment. Et c'est vrai qu'il y a eu des exemples à l'étranger de drames similaires. Je pensais à Windsor, le château de Windsor. Vous vous souvenez, il y a eu un incendie en 1992. Il a fallu 5 ans pour le reconstruire, mais on y est parvenu. Et je crois que c'est aussi très beau de faire cette restauration.
Merci beaucoup Fabrice Almeida d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ce drame des flammes hier soir à Notre-Dame de Paris. Merci Fabrice.
À tout.
Europe 1. Il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal de David Doucan et la météo avec le retour de la pluie sur une majeure partie du pays.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo du jour avec vous, Céline Dacosta. Comme prévu, c'est la pluie qui fait son retour.
Oui, les averses sont bien présentes en ce moment sur la moitié ouest du pays, de la Bretagne, Cotentin, jusqu'à la région centre et Midi-Pyrénées. Ces pluies touchent également déjà le Languedoc-Roussillon et l'ouest du Massif central. C'est une perturbation accompagnée de vent et de quelques coups de tonnerre encore pour le sud-ouest. Pour l'est, ce matin, le ciel est bien voilé avec encore quelques rayons de soleil qui toucheront la Lorraine et l'Alsace. Dans l'après-midi, ces averses vont
gagné tout l'Est de l'Île-de-France aux Bouches-du-Rhône. Les premières averses pour l'Île-de-France en début d'après-midi, du Grand Est à la région PACA et en Corse, avec du vent dans la vallée du Rhône, de la neige sur les reliefs, et puis les éclaircies reviennent progressivement dès ce matin sur les côtes atlantiques et puis sur une grande partie ouest cet après-midi.
Un mot des températures qui sont plus douces ce matin.
Oui, on a plus de gelée, hein, bonne nouvelle. Pour les cultures notamment, la moyenne va de 2 à 7 degrés, 6 à 11 plus au sud. Et puis cet après-midi, elle baisse un petit peu par rapport à hier avec ce passage pluvieux, mais reste dans la moyenne de saison, 12 à 17 degrés. Ça, c'est pour la moitié nord et 15 à 20 degrés pour la moitié sud.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures placées, même aujourd'hui sous le signe de la bonne humeur, en compagnie de Céline Dacosta et Varoc, deux journalistes d'investigation qui n'arrêtent jamais de bosser, même durant les coupures pub. Elles continuent d'enquêter, comme vendredi.
Question très importante, qu'est-ce que je prends pour le cadeau de Jérôme?
C'est l'anniversaire de Jérôme, la croix?
Non, Commandeur, tu dis qu'on lui offre tous les deux? Mais putain, j'ai pas d'idée, hein.
Je vais vous aider, je vous aide, quel cadeau? Jérôme, commandeur.
Non, alors qu'est-ce que je lui offre? Est-ce que je vais prendre de l'alcool?
Quoi?
Tu veux prendre de l'alcool?
Pourquoi, il aime bien faire des collages?
Vous voyez un aperçu de mon quotidien.
C'est
à
drôle,
suivre
ça,
le journalisme. C'était très drôle, avec un grand J. Politique, économie, médias, les trois fantastiques passent l'actu à la moulinette de leur sagacité. Et ce matin, retour évidemment sur les conséquences politiques de l'incendie à Notre-Dame, le report de l'allocution présidentielle et les conséquences économiques, notamment l'impact en matière de tourisme.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Toute l'actu de ce 16 avril, voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Elle a traversé deux guerres mondiales, sans une égratignure, la voilà balafrée en ce matin d'avril 2019. Trois toitures ravagées, flèches abattues. Notre-Dame de Paris a été la proie d'un terrible incendie hier, matinale spéciale sur Europe 1. Notre-Dame défigurée, mais encore debout. Les 400 pompiers mobilisés cette nuit ont réussi à maîtriser le feu, même s'il n'est pas encore totalement éteint. L'un d'eux a été gravement blessé. On a craint à un moment que les deux beffrois ne s'effondrent. C'est donc la façade. Ils ont tenu bon. La structure de la cathédrale est sauvée. Déclaration du chef des soldats du feu sur place. Le président de la République a repoussé son intervention télévisée. Il s'est rendu sur le parvis de Notre-Dame. Emmanuel Macron a promis que la cathédrale serait rebâtie. Il a décidé le lancement d'une souscription nationale pour financer les travaux. La famille Pinault a annoncé de son côté débloquer dès maintenant la somme de 100 millions d'euros.
Europe 1.
Partons sans attendre à proximité de Notre-Dame de Paris avec l'un des reporters d'Europe 1. Bonjour Jean-Jacques Herry.
Bonjour David.
Jean-Jacques, le pire a été évité, c'est ce que l'on peut dire ce matin?
Oui, Paris se réveille ce matin avec sa cathédrale défigurée, sa cathédrale meurtrie, mais sa cathédrale et ses deux tours toujours debout. Hein. Si on a pu craindre à un moment un effondrement de la structure du monument, au milieu de la nuit, les pompiers sont finalement parvenus à maîtriser les flammes. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle, tant l'incendie était impressionnant hier soir, avec un panache de fumée visible dans tout Paris et ses braises transportées par le vent tout autour de l'île de la cité. Alors oui, le pire a été évité, mais ça ne doit pas faire oublier les dégâts terribles. L'ensemble de la toiture a brûlé, la charpente en bois est détruite, la voûte s'est en partie effondrée, la flèche, l'emblématique flèche de la cathédrale, eh bien, elle n'existe plus ce matin.
Rappelez-nous, Jean-Jacques, le déroulé des événements. Tout a commencé hier vers 18h50, c'est bien cela ?
Oui, avec un feu qui a démarré en fait au niveau de plusieurs échafaudages dans les combles de la cathédrale. Et puis très vite, ce feu s'est propagé au toit. La chaleur a fait le reste. La charpente de bois longue d'une centaine de mètres s'est embrasée. Et une à une, les poutres se sont enflammées. Très vite, les pompiers étaient sur place avec toute la difficulté d'intervenir en plein centre de Paris sur l'île de la Cité. Et pendant plusieurs heures, ils étaient 400 à lutter d'arrache-pied à l'aide de 18 lances à eau. Et pendant un long moment, on a craint, je vous le disais, un effondrement de la structure, et c'est finalement un peu avant 23h, soit 4 heures après le début de l'incendie, que les pompiers ont pu annoncer que la structure du bâtiment était sauvée. Évidemment, ils ont continué d'arroser toute la nuit pour noyer les foyers résiduels. Alors, dans la nuit, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction volontaire par incendie. Pour l'instant, le parquet privilégie un départ de feu accidentel. Pas plus de précision. Ce que l'on sait, c'est qu'en tout cas, les ouvriers du chantier ont été entendus durant la nuit par les enquêteurs, puisque l'idée, c'est d'établir le plus rapidement possible la chronologie, le déroulé exact qui a mené à cette catastrophe.
Ouais, merci à vous Jean-Jacques Herry. J'ajoute une dernière question. Jean-Jacques, vous avez des informations sur les œuvres d'art qui sont à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'elles ont pu être sauvegardées?
Pour l'instant, aucune précision. Ce que l'on sait, c'est qu'a priori, les experts qui sont intervenus sur notre antenne hier soir disaient qu'a priori, dès le départ d'un incendie de la nature qu'a pu connaître Notre-Dame la nuit dernière, eh bien, ces œuvres d'art étaient très rapidement...
Elles ont été emportées, en effet, Jean-Jacques. Comme par exemple la tunique de Saint-Louis ou la couronne d'épines du Christ, qui ont pu être mises en sécurité. Merci à vous, Jean-Jacques Herry. Ouais. Merci pour toutes ces informations et ces précisions. Et j'ajoute que l'un des pompiers intervenus hier soir est gravement blessé. Alors comment ne pas ressentir une très forte émotion toute la soirée et une partie de la nuit? De nombreux citoyens ont essayé de s'approcher de la cathédrale en feu. Écoutez cette petite fille de 9 ans avec sa mère. Elle répondait toutes les deux aux questions de Théo Manval.
Moi j'ai des images, des grosses images qui vont me rester dans mon cœur à mon avis longtemps. C'est quand le bout de la chapelle, il est tombé au milieu. Là j'ai eu mon cœur qui s'est déchiré parce que bah, je tenais vraiment, je suis croyante, donc c'était la première fois que j'allais y aller. Mais là, c'est fini, il n'y a plus de notre médaille, ça fait mal au cœur.
On est arrivé à 18h40 pour aller visiter. Ma fille fait sa profession de foi cette année, donc ça nous tenait à cœur de l'emmener à Notre-Dame. Et les sirènes commençaient déjà à retentir à l'intérieur, ils ont fermé les portes. On a commencé à avoir de la fumée noire qui sortait d'échafaudage. Ça a été vraiment très très vite, hein. La fumée s'est vraiment propagée à une vitesse folle.
Il y a des morceaux de briques qui sont tombés à terre.
Les poutres, on les a vues tomber une à une, on a entendu le bruit, enfin, c'est terrible, quoi. Le clocher est tombé en un seul morceau, un crépitement, une grande fumée blanche qui s'est propagée de l'extérieur.
Et ça, c'est choquant parce que pour les croyants, eh ben, c'est le symbole. Le pire, qu'une cathédrale s'effondre.
C'est une catastrophe, quoi. Il n'y a pas de mots. Hein. C'est notre patrimoine. On ne peut être que choqué devant ce drame, en fait. C'est une catastrophe.
Et moi, j'ai envie de dire un truc. Une grosse pensée à tous les pompiers là qui sont en train de sauver la cathédrale. Et j'espère qu'il n'y aura pas de mort aujourd'hui et qu'ils vont pouvoir la reconstruire et que dans quelques années, on vienne la revoir pour qu'on puisse se remémorer. Pas les drames, mais les bonnes choses.
Témoignage recueilli par Théo Manval pour Europe 1.
À suivre dans ce journal, il y a l'émotion bien sûr, mais aussi la détermination. Comment reconstruire? On en parle dans un instant, à tout de suite.
Il est 6h35.
Europe 1.
Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Decamp, vous nous parlez maintenant de la reconstruction.
Nous rebâtirons Notre-Dame, déclaration d'Emmanuel Macron, qui a décidé le lancement d'une souscription nationale pour financer. La famille Pinault, qui détient le groupe de luxe Kering, a annoncé aussi débloquer dès aujourd'hui la somme de 100 millions d'euros. Mais alors, en quoi consisteront ces travaux? Écoutez Patrick Demouy, il est historien, spécialiste du Moyen-Âge et notamment auteur de plusieurs ouvrages sur la reconstruction de la cathédrale de Reims, qui avait été détruite lors de la Première Guerre mondiale.
Il semble bien que les voûtes ont résisté. Il va falloir sans doute les consolider et rebâtir une charpente. Alors, quelle sera la solution choisie? La charpente disparue était une charpente médiévale. À Reims, après la guerre de 1914-18, l'architecte Henri Deneux a fait le choix de ne pas reconstituer une charpente en bois et d'innover avec une charpente en béton. La décision reviendra aux spécialistes des monuments historiques, reconstruction à l'identique ou innovation, pour ne pas non plus trop charger avec un poids énorme une structure qui peut être fragilisée tout de même par l'incendie que nous venons de connaître.
L'historien Patrick Demouy avec Pauline Jacquot pour Europe 1. L'événement a saisi d'effroi la France entière, mais pas seulement. Partout dans le monde, les réactions ont été nombreuses, en particulier aux États-Unis. Le récit du correspondant d'Europe 1 à New York, Xavier Yvon.
La photo de la flèche brisée par les flammes sera à la une du New York Times ce matin. Hier, au plus fort de l'incendie, les grandes chaînes généralistes NBC ou CBS ont interrompu leur programme de l'après-midi pour passer en édition spéciale. CNN et les autres chaînes d'info ont-elles enchaîné les heures de direct? Il faut dire que tous les Américains connaissent Notre-Dame. Cette mère de famille de Brooklyn, par exemple, a visité la cathédrale quand elle était enfant. Je me sens triste pour le monde, dit-elle. Je pensais pas que ça m'affecterait à ce point-là. On a vu ressurgir ici les photos des GI devant Notre-Dame à la libération de Paris. L'archevêque de New York est allé prier à la cathédrale Saint-Patrick, autre monument gothique. Barack Obama a tweeté une photo de lui et de sa famille allumant un cierge à Notre-Dame. Et Donald Trump a pris le temps de réagir.
Notre-Dame, cathédrale.
C'est l'un des plus grands trésors du monde, a-t-il dit. Un peu plus tôt sur Twitter, le président américain avait voulu se mêler des opérations de secours. conseillant, je le cite, d'envoyer des bombardiers d'eau. La sécurité civile française lui a répondu par un tweet en anglais, lui expliquant poliment qu'une telle action détruirait la structure de la cathédrale. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Les symboles de la France, une catastrophe terrible à voir, des scènes déchirantes de Berlin, Londres, Washington donc, mais aussi du Vatican ou de Jérusalem. Les réactions se sont multipliées hier soir après l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Et évidemment, on le disait, matinale spéciale sur Europe 1. Vous retrouverez Nico Salégas et ses invités en direct aux abords immédiats de Notre-Dame entre 7h et 9h. Merci beaucoup David Doucan pour ce journal. David, un journaliste qui prouve que le génie n'empêche aucunement l'humilité. Quelle leçon de vie, en effet, que la réaction toujours simple et sans chichi de David lorsque le présentateur, en l'occurrence là Nico Salégas, jeudi dernier, lui fait un compliment.
Il est bien ton journal ce matin ?
Pour moi, c'est un peu tous les mêmes.
Oh, ne jouez pas les modestes, David. Chaque journal est unique et chaque journal est un petit chef-d'œuvre et vous le savez.
Non, c'est surtout quand l'actualité l'emporte. Comme aujourd'hui, par exemple, où le journal est particulier parce qu'il y a une actualité qui nous touche tous.
Et il était particulièrement bon aujourd'hui, là, vous ne pourrez pas le nier. En parlant de chef-d'œuvre, voici la météo de Céline Dacosta. Une journée grise et pluvieuse.
Oui, en tout cas, tout le monde aura droit à une averse aujourd'hui, mais dès demain, rassurez-vous, c'est le retour du soleil. La pluie, on la retrouve ce matin sur la moitié ouest. Elle gagnera l'est du pays dans l'après-midi. Il sera accompagné de vent. Les éclaircies reviennent déjà ce matin sur les côtes atlantiques et sur toute la partie ouest pour cet après-midi. Puis on aura de la neige également sur les reliefs du sud. Quant aux températures, elles iront de 2 à 11 degrés ce matin. Fini les gelées, même si ça reste un petit peu frais. 12 à 20 degrés, c'est la moyenne cet après-midi du nord au sud, avec des températures qui sont toujours dans les valeurs de saison, même si elles baissent un petit peu avec ce passage pluvieux.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias ce matin, les trois fantastiques reviennent bien sûr sur les conséquences du dramatique incendie à Notre-Dame hier soir. Conséquences politiques avec le report de l'allocution présidentielle, mais aussi conséquences économiques avec, au-delà du coût de la reconstruction, un fort impact en vue sur le tourisme.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Elle avait traversé deux guerres mondiales sans une égratignure, toiture ravagée, flèche abattue. Notre-Dame de Paris a été la proie d'un terrible incendie hier, matinale spéciale sur Europe 1. La cathédrale défigurée mais encore debout. Les 400 pompiers mobilisés cette nuit ont réussi à maîtriser le feu. L'un d'eux a été gravement blessé. On a craint un moment que les deux beffrois ne s'effondrent. Ils ont tenu bon. La structure de la cathédrale est sauvée, déclaration du chef des soldats du feu sur place. Le président de la République a repoussé son intervention télévisée. Il s'est rendu sur le parvis de Notre-Dame. Emmanuel Macron a promis que la cathédrale serait rebâtie. Il a décidé le lancement d'une souscription nationale pour financer les travaux. La famille Pinault a annoncé débloquer dès maintenant la somme de 100 millions d'euros.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Chers auditeurs friands d'analyse ciselée sur l'actualité, vous les connaissez. Vous les attendez chaque matin avec impatience. Trois stars, trois incontournables, en un mot, trois fantastiques. Axel de Tarlé, qui sont les trois piliers de notre matinale ?
Du pain, du vin, du boursin.
Mais non, vous, Mickaël Darmon pour la politique, Eva Roque pour la télé, et donc pour l'économie, celui que Nico avait raison d'appeler...
Axel de Tarlé.
Axel de Tarlé, mais on commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Hier soir, on attendait la parole du président de la République. L'allocution présidentielle a finalement été reportée.
Et oui, hier à 19h, la vie politique du pays s'est comme figée, hein, mise entre parenthèses. Dès que l'Élysée a pris connaissance de l'incendie à Notre-Dame de Paris, eh bien, la décision a été immédiate. Il fallait reporter la déclaration, l'allocution présidentielle. Il faut dire aussi qu'elle était enregistrée depuis 18h30 et il eût été impossible d'envisager que le président puisse diffuser ses propos sans évoquer le drame qui se déroulait. Donc bien évidemment, il fallait donc l'annuler. Le président s'est rendu sur place. Je suis triste de voir brûler une part de nous, a été sa première déclaration sur les réseaux sociaux. Et immédiatement, l'émotion s'est emparée également de tout l'appareil d'État qui s'est rendu également au chevet de la cathédrale. Donc, on avait le chef du gouvernement, le président de la République, bien sûr, de l'Assemblée nationale et beaucoup de ministres. Une union sacrée en une heure s'est formée. Union nationale sans quoi, peut-être à part donc Jean-Luc Mélenchon qui a demandé à Emmanuel Macron de se taire pendant 24 heures. Mais enfin, on retiendra aussi ses propos très forts, férus d'histoire. Notre-Dame est un membre de notre famille, c'est notre récit, a dit donc également Jean-Luc Mélenchon.
Emmanuel Macron a donc pris la parole, mais pas comme prévu, tout son agenda politique est bouleversé.
Et oui, le chef de l'État est revenu tard dans la soirée pour une déclaration solennelle et annoncé le lancement d'une souscription nationale pour rebâtir Notre-Dame. Cette cathédrale, nous la rebâtirons tous ensemble, c'est une part du destin français, des mots en résonance avec ce qu'il disait la veille de son élection en proclamant ensemble la France. L'autre question aujourd'hui, eh bien, comment rebâtir la séquence politique prévue donc hier pour annoncer les mesures de la fin du grand débat officiel. Officiellement, il faut savoir que la vidéo enregistrée a été écrasée, a dit l'Élysée. Une conférence de presse était prévue pour expliquer les décisions annoncées. Alors, est-ce que tout va être rassemblé, justement, en cette conférence de presse cette semaine? La décision est délicate, parce qu'à partir du moment où le président décidera de reprendre son agenda politique, ce sera également la fin du moment d'émotion nationale autour de Notre-Dame de Paris.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon. Et Notre-Dame, ce n'est pas qu'un symbole, c'est aussi le monument historique le plus visité d'Europe, Axel de Tarlet, avec des conséquences à prévoir en termes économiques. Sur les retombées touristiques notamment, Axel.
Voilà, bien sûr, Notre-Dame, c'est 12 à 14 millions de touristes chaque année. Ce qui fait d'ailleurs que ce monument, il y a des centaines de millions sur Terre de touristes qui l'ont visité, d'où cet élan international. Je dois reconnaître que les professionnels du tourisme, d'ailleurs, s'inquiètent effectivement des retombées et de l'image que renvoie Paris, parce qu'on a eu l'Arc de Triomphe saccagé, les Champs-Élysées pillés, et maintenant Notre-Dame en
oui,
feu.
Oui, mais là, c'est différent, Axel, parce que là, on y est pour rien, quelque part.
C'est différent, et oui, mais il y a un autre impact aussi.
Il va y avoir un élan de solidarité.
Oui, alors j'allais l'aborder, mais juste pour même en termes de sécurité, il y avait hier une image d'impuissance face au feu. Vous voyez, ces lances à incendie de nos pompiers paraissaient bien dérisoires. Et donc, pour des touristes qui ont peur de ces Champs-Élysées saccagés, qui peuvent avoir peur du feu, etc. Vous avez raison, la grande différence avec les Champs-Élysées, c'est que là, il y a tout de suite un élan de sympathie et de solidarité vis-à-vis de Notre-Dame. Ben, c'est la force de ce monument. Quoi. Comme on l'a dit, chaque année, il y a 14 millions de touristes du monde entier qui s'y pressent. Donc, il y a des centaines de millions de touristes qui ont une photo de Notre-Dame. On vient de l'entendre dans le journal d'une Américaine qui disait « Je ne pensais pas que ça me toucherait autant ». Et on a vu, le président Macron donc, a annoncé le lancement d'une souscription nationale. Il y a d'ailleurs, j'ai déjà regardé, il y a la Fondation du patrimoine qui a déjà ouvert cette souscription. Mais ce qui était frappant, c'est que dès hier soir, il y avait des cagnottes privées qui se sont spontanément créés dans le monde entier. Alors j'en ai trouvé quelques-unes. Ce matin, elles tournent en ce moment. Par exemple, il y a une cagnotte. Alors les plateformes disent qu'elles font attention à ce que ce ne soit pas des margoulins qui lancent ces cagnottes. Ils font bien attention à ce que l'argent aille véritablement à Notre-Dame. Par exemple, il y en a une, la Notre-Dame de Paris Je t'aime, qui a déjà recueilli 19 645 euros. Financement des réparations de Notre-Dame, qui a récolté 11 360 euros. Donc le don n'est pas extraordinaire. Ouais, c'est un don moyen de 25 euros. Vous avez même une cagnotte aux États-Unis. Reconstruction, pardonnez mon anglais, Reconstruction of Notre-Dame Cathedral, 2875 dollars. Il y a la famille Pinault, on le dit beaucoup, qui cette nuit, donc la famille c'est le luxe, hein, vous savez Gucci, Yves Saint-Laurent, donc François-Henri Pinault, qui a débloqué 100 millions dans la nuit. Alors c'est vrai que les travaux vont coûter cher, hein, évidemment, on parle en dizaines, en centaines de millions d'euros. Ils vont durer 20 ans. Il faut savoir que la cathédrale de Reims, alors c'est le petit message d'espoir qu'on a ce matin, a été détruite, vous savez, à 85%. Durant la Première Guerre mondiale, elle a été bombardée par les Allemands et les travaux ont duré 20 ans et elle est ressortie à l'identique et même disent les architectes...
Plus belle encore.
Non, mais plus forte, parce que la charpente maintenant est en béton armé.
Ah oui,
et puis,
ça, c'est sûr.
Dernier petit message, j'entendais ce matin le spécialiste des religions, Odon Vallée, dire bah, « Écoutez, pendant ces 10 ans ou ces 20 ans de travaux, ce sera l'occasion d'aller à Saint-Sulpice, à Saint-Eustache. » Et il disait même « Écoutez,
églises.
Dans chaque village de France, chaque église est un bijou d'architecture, donc c'est l'occasion de voir, je crois qu'il y en a plus de 30 000, hein, les 30 000, même
le
si
pays
Notre-Dame, Notre-Dame aura toujours une place à part.
Merci beaucoup Axel de Tarlet pour cette vision économique, mais aussi sentimentale.
Mais aussi architecturale.
Axel de Rock.
Axel de Rock,
qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
On change totalement de sujet, mais je voulais absolument vous parler d'un documentaire qui s'appelle Les Enfants perdus d'Angleterre. C'est à voir sur France 5 à 20h55. En fait, en novembre 2016, France 5 avait déjà diffusé un premier documentaire choc. Stéphanie Thomas et Pierre Chassagneux avaient alors enquêté sur les conséquences de la mise en place en Angleterre depuis 1989 de ce qu'on appelle le Children Act. C'est une loi qui permet aux services sociaux de retirer des enfants de leur famille sur un simple soupçon de maltraitance, des histoires à peine croyables, tant cet arrangement paraissait injuste et annonciateur de catastrophes pour la suite du développement des enfants. Je me souviens avoir été très choquée par ce documentaire, et bien la suite l'est tout autant, car les deux réalisateurs ont décidé de repartir sur le terrain pour savoir ce que deviennent ces enfants, comme les filles de Régis par exemple. C'est un Français qui était installé il y a quelque temps à Brighton. Il a deux petites filles. Un soir, les sœurs se disputent. L'une donne un coup de balai à l'autre. La petite raconte ça à l'école le lendemain. Régis, il est arrêté et il ne reverra plus jamais ses filles.
Nos deux filles ont été enlevées par les services sociaux anglais de façon totalement illégale. Et donc, depuis, je ne les ai pas revues, malgré toutes les batailles que j'ai pu mener, si bien en Angleterre qu'en France.
C'est une enquête effrayante. Alors d'abord sur les conditions injustifiées du retrait des enfants, parce que ce n'est que sur des soupçons. Et puis sur leurs conditions de vie ensuite dans les familles d'accueil, parfois connues pour leur violence, ou dans des foyers où là aussi la violence est légion et les agressions sexuelles récurrentes. L'ONU s'est inquiétée de cette politique sociale en Angleterre et pour l'instant, eh bien, ça n'a guère provoqué de réaction des services sociaux qui continuent à faire n'importe quoi. L'histoire d'une faillite institutionnelle de la maltraitance, voilà comment on pourrait résumer ce documentaire édifiant à voir sur France 5 à 20h55. Mais pour finir quand même, sur une note plus joyeuse et parce que c'est les vacances, sur Sister à 21h, vous serez peut-être ravis d'entendre ça avec vos enfants.
Alors, une table pour deux.
Et voilà les nonos, Tony.
Et les nonos. Mais que nonos, tu deviens fou. Oh, ce soir, le brigando, il mangera à la carte.
Va bene, c'est toi le patron.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amis?
Et oui, un plat de spaghettis pour une scène mythique d'un dessin animé de Walt Disney de 1955. Est-ce que vous avez reconnu ?
La Belle et le Clochard.
Évidemment, quand un plat de pâtes devient l'acte de naissance d'un amour entre deux chiens, La Belle et le Clochard, avec une bande originale absolument géniale, c'est à voir sur Sister à 21h.
Merci beaucoup Eva Rock, merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon, l'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, au lendemain du drame Notre-Dame de Paris dévorée par les flammes, Europe 1 se rend ce matin au plus près de la célèbre cathédrale dévastée. Nikos Aliagas et toute l'équipe de la matinale est en direct d'une rue adjacente à Notre-Dame de Paris pour évoquer la catastrophe, les responsabilités, l'histoire du monument, mais aussi les enjeux de la reconstruction.
Bon réveil à tous, il est 6h53. Il est 6h55, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine et ce matin, le fiel cède le pas devant l'émotion. On se passera de débrief car c'est une partie de notre histoire collective qui a brûlé hier soir. 200 ans pour la construire, 5 heures pour la voir partir partiellement, en tout cas en fumée. Un terrible incendie a dévasté une grande partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sous les yeux sidérés des Parisiens, des Français et du monde entier, incrédule devant les images impressionnantes diffusées en boucle sur CNN notamment. Europe 1 vous propose ce matin d'être au plus près de l'événement avec une matinale spéciale en direct aux abords de la cathédrale Notre-Dame, encore fumante avec vous, Nikos Aliagas. Vous êtes où exactement ce matin, mon cher Nikos?
Bonjour Mathieu Noël, je suis rue Lagrange, à quelques dizaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ici, évidemment, toutes les rues sont bloquées par les pompiers et par la police, avec des badauds incrédules qui prennent des photos, des joggeurs qui s'arrêtent, la mine défaite, l'ambiance est lourde. C'est un autre jour, c'est un nouveau jour avec une cathédrale de Paris toujours debout, mais une cathédrale de Paris blessée incontestablement. On fera une édition spéciale. Toute la rédaction est mobilisée ce matin sur l'antenne d'Europe 1.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.